Ping est très 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 heureux d'accueillir Richard Stallman, car ça fait à peu près 10 ans qu'on a du mal à expliquer la différence entre culture libre et open source. Donc je lui laisse la parole. Merci.
Le sujet principal de cette conférence sera le danger du flicage. Mais je veux présenter brièvement le logiciel libre au commencement, parce que les deux sujets sont en quelques relations. Donc, quand je dis « free software » en anglais, ça signifie « libre », pas « gratuit ». Il s'agit du logiciel libre. Mais en anglais, il n'y a pas d'autre mot que « free », qui signifie en même temps « libre » et « gratuit ». C'est confus, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais moi, quand je parle anglais, je ne dis jamais « free » quand il s'agit du prix. Je dis toujours « gratuit »,« gratis » en anglais. Et comme ça, quand je dis « free », ça signifie toujours « libre ». Heureusement, en français, c'est plus clair. Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire les choses que l'État français ne respecte plus. Liberté, parce qu'un programme est libre quand il respecte la liberté de chaque utilisateur. Égalité, parce que un programme libre ne donne à personne du pouvoir sur personne. Et fraternité, parce que le logiciel libre respecte aussi la communauté des utilisateurs et encourage la coopération entre les utilisateurs. Mais c'est quoi un programme? C'est quoi un ordinateur? Un ordinateur est un instrument conceptuellement très simple. Il sait faire une seule chose, trouver la prochaine instruction et faire ce qu'elle dit. Et trouver la prochaine instruction et faire ce qu'elle dit. Des millions de fois par seconde. Mais c'est très simple et c'est toujours pareil. Mais les instructions viennent d'un programme. Selon que dit ce programme, le même ordinateur peut faire n'importe quoi sur le contrôle d'un programme approprié, mais dans des limites, parce qu'il y a des choses que l'ordinateur ne peut pas faire. Mais hormis ces choses impossibles, l'ordinateur peut faire n'importe quoi. Elle est une machine universelle de computation. Donc, qui donne les instructions à ton ordinateur? Tu peux croire que c'est toi, mais en vérité, c'est quelqu'un d'autre. Tu peux croire que ton ordinateur t'obéit, tandis qu'en vérité, il obéit principalement à un autre, et à toi uniquement quand l'autre l'autorise, autant que l'autre autorise. Pour n'importe quel programme, il y a deux possibilités. Ou les utilisateurs ont le contrôle du programme, ou le programme a le contrôle des utilisateurs. Il n'y a pas d'autre possibilité, il est toujours l'un ou l'autre. Quand les utilisateurs ont le contrôle du programme, c'est du logiciel libre. C'est quoi la liberté? C'est d'avoir le contrôle de ta propre vie. D'avoir le contrôle des activités que tu fais dans ta vie. Mais si tu utilises un programme pour faire l'activité, le contrôle de l'activité requiert le contrôle du programme. Donc c'est quand les utilisateurs ont le contrôle du programme que ce programme respecte leur liberté et donc mérite l'appellation de logiciel libre. Mais pour que les utilisateurs aient le contrôle du programme, ils ont besoin des quatre libertés essentielles. La liberté zéro est d'exécuter le programme comme tu veux pour n'importe quel but. Et la liberté numéro un est d'étudier le fonctionnement du programme et de le changer pour qu'il fonctionne et fasse tes activités informatiques comme tu veux. Pour vraiment avoir le contrôle du programme, il faut le code source. Voilà le code source d'un petit programme. Le code source est comme un mélange de la mathématique et de l'anglais. Si tu as appris le langage de programmation, tu peux lire le code source, le comprendre et le changer pour faire d'autres choses. Pour l'exécuter, nous convertissons le code source en fichier exécutable, une série énigmatique des 1 et des 0, très difficile à comprendre. Pour un programme si court, oui, le programmeur peut sans grande difficulté déterminer ce que les 1 et les 0 signifient. Mais pour un grand programme, c'est très très difficile. C'est un travail très admiré parce que très difficile, qui s'appelle l'ingénierie inverse. Donc, si l'utilisateur n'a pas le code source, pratiquement, il n'a pas l'option de changer le programme. Lui dire, ah oui, vous avez le droit de changer ce programme, si vous faites d'abord de l'ingénierie inverse, c'est de se moquer de l'utilisateur. Ce n'est pas vraiment la liberté numéro un. Ces deux libertés fournissent aux utilisateurs le contrôle séparé du programme. Ça veut dire que chacun a le droit de changer ses copies. Moi, je peux changer mes copies, toi, tu peux changer tes copies. Et voici un utilisateur qui exerce cette liberté, qui change ses copies du programme, et trois autres qui ne l'exercent pas, qui utilisent le programme tel quel, sans changement, la version qu'ils ont reçue. Le contrôle séparé est essentiel, mais ne suffit pas parce que beaucoup d'utilisateurs ne savent pas programmer. Aujourd'hui, presque tout le monde utilise l'informatique, mais seulement quelques-uns savent programmer. Je ne crois pas que tout le monde doive apprendre à programmer. Il y a d'autres choses à faire dans la vie. Mais comment est-ce qu'ils peuvent avoir du contrôle sur ce programme? Pas séparément. Il faut donc le contrôle collectif, c'est-à-dire la liberté de collaborer avec des autres en exerçant le contrôle du programme. Voilà un groupe de trois utilisateurs qui exercent le contrôle collectif. Dans le groupe, il y a deux qui changent directement le programme. Évidemment, ils savent programmer. Et il y a un troisième qui ne change pas directement le code. Peut-être il ne sait pas programmer. Mais il participe dans les décisions du groupe sur quel changement à faire. Donc, il participe dans le contrôle du programme à travers le groupe. Ceux qui collaborent sont ceux qui veulent collaborer. Voilà deux autres utilisateurs qui ne participent pas dans ce groupe. Pourquoi? N'importe quelle raison. Peut-être ils ne connaissent pas le groupe. Peut-être ils ne sont pas d'accord avec le groupe. Ils ont d'autres idées de que faire dans le programme. Peut-être les uns n'aiment pas les autres. Le contrôle collectif et la liberté de collaborer avec les autres qui veulent collaborer avec toi. Ce contrôle collectif requiert deux autres libertés essentielles. la liberté de et de faire des copies exactes pour les donner ou vendre aux autres quand tu veux. Et la liberté 3 est de faire des copies de tes versions modifiées pour les donner ou vendre aux autres quand tu veux. Avec ces deux libertés, chaque membre du groupe ayant fait une version modifiée peut distribuer des copies aux autres, à d'autres membres du groupe. Puis, avec leur liberté numéro 2, ils peuvent en faire plus de copies pour les distribuer aux autres membres du groupe. Aussi, ils ont la liberté de distribuer des copies aux autres qui ne participent pas dans le groupe, même de publier leurs versions modifiées, les versions modifiées qui circulent dans le groupe, c'est-à-dire offrir des copies au grand public. Dans la liberté numéro 2, il y a une partie qui est spécialement importante. C'est la liberté de partager des copies. Le partage des copies signifie la diffusion non commerciale entre des personnes, des vraies personnes, pas des corporations qui ne sont pas vraiment des personnes. Oh, c'est un mensonge. Et donc des copies exactes, sans changement. Donc c'est une liberté étroite. Je crois que n'importe quelle personne doit être libre de partager des copies de n'importe quelle œuvre publiée. Donc c'est une liberté étroite qui s'applique très largement. Qu'une œuvre soit libre est beaucoup plus de liberté. Et je crois que les œuvres dédiées à l'utilisation pratique, c'est-à-dire pour s'utiliser à faire des activités, ces œuvres doivent être libres. C'est-à-dire que chaque utilisateur humain ou peut-être une entreprise ou un État ou une organisation doit avoir les quatre libertés essentielles dans l'utilisation d'une œuvre pratique, fonctionnelle. Si les utilisateurs du programme, maintenant je reviens uniquement au logiciel, si les utilisateurs d'un programme ou de n'importe quelle œuvre fonctionnelle détiennent les quatre libertés essentielles, ce programme ou cette œuvre respecte leur liberté et les utilisateurs ont le contrôle. Donc c'est un programme ou une œuvre libre. Mais si une de ces libertés manque ou est incomplète, donc les utilisateurs n'ont pas le contrôle et donc c'est le programme qui a le contrôle des utilisateurs et le propriétaire qui a le contrôle du programme. Donc ce programme, pas libre, est un instrument du pouvoir injuste de son propriétaire sur ses utilisateurs. Et nous l'appelons privateur parce qu'il prive de la liberté à ses utilisateurs. Un programme privateur est une injustice et ne devrait pas exister. Développer du logiciel privateur est d'empirer le monde. C'est de faire mal. C'est de faire mal. Il faut ne pas promouvoir le logiciel libre. Moi, je suis la règle de ne jamais proposer l'utilisation d'un programme privateur à personne. Parce que le programme privateur est un mal et c'est mon devoir de ne pas augmenter ce mal. Donc voici une injustice qui mène à une autre injustice, à d'autres injustices. Parce que aujourd'hui, les propriétaires sont conscients de leur pouvoir sur les utilisateurs. Ils calculent finement jusqu'à quel point ils peuvent maltraiter les utilisateurs à travers de son programme. Ils mettent donc des fonctionnalités malveillantes dans leur programme privateur. C'est-à-dire que le pouvoir qu'il exerce sur les utilisateurs les corrompt. Ils ressentent toujours la tentation de mettre des fonctionnalités malveillantes et aujourd'hui, ils cèdent toujours à cette tentation. C'est normal, ce n'est plus l'exception, c'est le cas normal de mettre dans les programmes privateurs des fonctionnalités malveillantes. Par exemple, des fonctionnalités de flicage. Voici l'escroquerie d'Amazon, The Amazon Swindle, le lecteur de livres numériques, qui flique l'utilisateur. Ce produit transmet de temps en temps le nom du livre et le numéro de la page. Et si l'utilisateur entre des notes transmises à Amazon, s'il souligne quelque chose, transmis à Amazon. La lecture orwellienne. Mais des fonctionnalités de flicage sont très communes, répandues dans le logiciel privateur. Par exemple, Windows fait du flicage, MacOS fait du flicage. Le système des iThings, les monstres mobiles d'Apple, fait du flicage. Flash Player flic. Presque tous les téléphones mobiles flic. Et aussi beaucoup d'applications flic. Par exemple, toutes les applications de streaming. Flic l'utilisateur, il fonctionne avec un serveur et le serveur exige que l'utilisateur s'identifie. Voici donc un système de flicage. Il faut rejeter les services de streaming. Je dis out, out, damn Spotify. Parce que Spotify flic ses utilisateurs et Netflix aussi. Même les applications de lumière flic. Quelqu'un a investigué et a déterminé que des applications gratuites mais pas libres pour allumer l'écran, pour diriger de la lumière, informent plusieurs sites quand ils s'utilisent. Flicage pour le flicage. Même la moindre excuse, le flicage n'est jamais justifié, mais en ce cas, ils n'ont pas même la moindre excuse pour transmettre des données personnelles. Mais évidemment, c'est ce qu'ils font. Ils disent, voici quelqu'un qui utilise cette application maintenant. Mais il y a aussi les menottes numériques, c'est-à-dire les fonctionnalités de refuser de faire ce que l'utilisateur veut faire, c'est-à-dire des fonctionnalités malveillantes pour restreindre l'utilisateur, qui se trouvent dans beaucoup de logiciels privateurs. Voilà l'horrible ray bleu. Ah! Un libriste fait les courses avec ses enfants et devant la caisse, il découvre dans le chariot un petit sac avec dedans un disque porteur de DRM. Elle dit, sacré bleu. Windows contient la base des numériques, MacOS, le système des iThings et je crois Android aussi, Flash Player, le Swindle d'Amazon et beaucoup d'autres programmes, les applications de streaming pour des numériques. C'est une injustice évidente parce que voici du logiciel pervers distorsionné en produit de restreindre pas notre cerveau, mais plutôt notre gardien du prison, si tu l'utilises, parce que moi je rejette uniformement toujours tous les produits conçus pour m'enlever de la liberté. Il faut nous curer de l'habitude de tolérer l'intrusion de tels produits dans notre vie. Il y a aussi des portes dérobées, c'est-à-dire des fonctionnalités pour faire des mauvais coups à l'utilisateur. Le Swindle d'Amazon a une porte dérobée pour supprimer à distance des livres. Nous le savons par observation. En 2009, Amazon a supprimé à distance des milliers de copies de livres dans un acte orwellien. Et c'était quel livre? C'était 1984 de George Orwell. Suite à beaucoup de plaintes, Amazon faisait semblant de promettre de ne jamais plus le faire, sauf sous ordre de l'État. Si tu as lu 1984, pas très réconfortant, mais c'était une fausse promesse parce que Amazon ne le faisait pas sérieusement, et quelques années plus tard, l'entreprise est revenue à supprimer à distance des livres, même sans ordre de l'État. Il y a aussi la censure. Apple était le pionnier de fabriquer des ordinateurs généraux à censurer l'installation des applications. L'utilisateur ne pouvait plus installer l'application de son choix, uniquement, elle était limitée aux applications approuvées par Apple. Et quand les utilisateurs trouvaient des manières de s'échapper de la censure, ils l'appelaient jailbreak, c'est-à-dire s'échapper de la prison. Donc notre terme pour de tels ordinateurs est prison, jails. Plus tard, Microsoft a imité la politique d'Apple. Mais enfin, il y a aussi des portes dérobées universelles. Windows contient une porte dérobée universelle depuis Windows XP ou avant, nous ne savons pas, mais c'était dans Windows XP que des investigateurs ont démontré la présence de la porte dérobée universelle. Que signifie universelle? Ça signifie que par cette porte dérobée, ils peuvent imposer par la force, à distance, n'importe quel changement de logiciel. Donc, universel, parce que par cette porte dérobée, il peut faire n'importe quoi à l'utilisateur. L'utilisateur est complètement à la merci de Microsoft, complètement impuissant. devant le pouvoir de Microsoft. Il y a aussi des portes dérobées universelles dans la swindle d'Amazon et dans presque tous les téléphones portables. Cette porte dérobée universelle s'utilise pour convertir des téléphones en dispositifs d'écoute qui écoutent tout le temps et transmettent toutes les conversations qu'ils écoutent. Et pas besoin de parler direct au micro. Ils sont capables d'utiliser la fonctionnalité de speakerphone pour écouter toutes les conversations dans la chambre. Et si tu penses récupérer ta vie privée en éteignant le téléphone, c'est drôle. Le téléphone modifié comme ça fait semblant de s'éteindre pendant qu'il continue d'écouter, de fonctionner, d'écouter et de transmettre. Donc, j'appelle les téléphones portables la rêve de Staline. Le téléphone portable flique les mouvements de l'utilisateur, du porteur du téléphone, toujours. Et il écoute toujours. Au moins, s'il a été converti, il flique les mouvements et les conversations toujours. Si Staline avait pu distribuer de tels produits à tous les habitants de l'Union soviétique, il l'aurait fait, mais la technologie n'existait pas encore. Mais maintenant, elle existe et je refuse de promouvoir ce flicage. Et pour moi, ce n'est pas un sacrifice. Maintenir ma liberté, maintenir ma vie privée, n'est pas un sacrifice. Accepter de porter un téléphone portable serait le sacrifice, un sacrifice que je refuse de faire. Heureusement, mais pourquoi est-ce que je le fais moi, pendant que tant d'autres ne le font pas? Parce que moi, j'ai appris ces faits avant d'en avoir un. Et donc, l'idée de l'acheter ou même de l'emprunter me paraissait horrible. Quand quelqu'un m'offre de porter un téléphone portable quand je visite un pays, je dis non, c'est horrible. Il faut ne pas le faire. C'est mon devoir de citoyen de ne pas le faire, et je fais mon devoir. Mais aussi, c'est une manière de me protéger du flicage, et je déteste le flicage. Quelqu'un m'a offert de me loger ici dans un hôtel, et j'ai dit non, je ne veux pas être fliqué, les hôtels fliquent leurs clients. Que les employés de l'hôtel me connaissent, ça ne me gêne pas. Mais que je sois mis dans une base de données, ça c'est injuste. Donc le remplacement des systèmes, des vieux systèmes en papier par des systèmes informatiques a la tendance d'imposer du flicage partout. Donc, il faut refuser l'automatisation, l'informatisation des systèmes. Les systèmes les vieux systèmes pas informatiques qui ne fliquent pas sont meilleurs parce qu'ils protègent les gens contre le pouvoir illimité de l'État. Ah, un autre aspect injuste du logiciel privateur. Quand Microsoft découvre une erreur de sécurité dans Windows, il informe l'NSA de l'erreur avant de le corriger. C'est une trahison de tous ses clients. Est-ce que tu crois que l'État français doit utiliser Windows? Évidemment pas. Je crois que le général de Gaulle aurait rejeté totalement Windows dans les ordinateurs de l'État pour ne pas être fliqué par les États-Unis. Ah, une fois, j'ai vu dans le ciné le titre « Celui qui a dit non ». Et j'ai demandé à mon ami « Est-ce que c'est un film sur moi ?» Mais non, c'était le général de Gaulle. Lui aussi a dit non. Mais c'était une blague. Je savais très bien que ce n'était pas un film sur moi. Sur qui, je ne savais pas, mais évidemment pas sur moi. Donc, pour le cas de Microsoft, nous savons qu'ils font ça. Pour les autres propriétaires du privateur, nous ne savons pas. L'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Pour chaque autre développeur de logiciel privateur, c'est possible qu'il fait ça. Est possible que non. Voici quelques peu d'exemples qui suffisent pour démontrer que presque tous les utilisateurs de logiciels privateurs sont déjà les victimes du malware, malicieux privateur. Et nous avons beaucoup d'autres exemples. Regarde GNU.org/proprietary pour beaucoup d'exemples de maliciels privateurs. Les conversations au sujet du maliciel d'habitude ne considèrent que les virus. Mais pourquoi ne pas faire attention au maliciel le plus commun? C'est-à-dire les produits privateurs. Mais ce ne veut pas dire que tout programme privateur soit du maliciel. En vérité, nous ne savons pas. Il y a des milliers de programmes privateurs dont nous ne savons pas qu'ils sont du maliciel ou pas. Et nous n'avons pas la manière de l'investiguer. Donc il y a deux possibilités pour un programme privateur. Soit nous connaissons des preuves que c'est du maliciel, soit nous n'avons pas de preuves, donc c'est peut-être du maliciel. Donc ou c'est du maliciel établi ou du maliciel possible. Mais il n'y a pas la possibilité de démontrer qu'un programme privateur n'est pas du maliciel. On n'a jamais de base rationnelle pour se confier d'un programme privateur. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour gain. Ils ont trouvé la manière de gagner plus d'argent en maltraitant leurs propres utilisateurs. Et donc, la seule base possible pour utiliser un programme privateur est la foi aveugle, souvent dirigée à une entreprise qui a déjà trahi ses utilisateurs et donc ne mérite pas cette foi. Voici l'informatique aux pigeons. Pour avoir une base rationnelle de se confier d'un programme, il doit être libre. La seule défense connue contre le maliciel est que le logiciel soit libre. Parce que les utilisateurs ont le contrôle, ils ont la possibilité de regarder le code source et détecter quelque chose de malveillant et de le corriger. Je viens de présenter beaucoup de fonctionnalités malveillantes connues que les utilisateurs ne peuvent pas corriger parce que les programmes sont privateurs. Mais si quelqu'un découvre quelque chose de malveillant ou seulement erroné dans un programme libre, les utilisateurs le corrigent. Ce n'est pas une défense parfaite. Aucune défense parfaite n'est connue. Mais c'est beaucoup, beaucoup meilleur que d'être sans défense, comme les utilisateurs du logiciel privateur. Donc, pour ta liberté, tu as besoin de t'échapper du logiciel privateur et venir à vivre avec nous dans le monde libre que nous avons construit, avec le système d'exploitation GNU et le noyau Linux. Nous avons construit ce monde pour vivre en liberté. J'ai commencé le développement du système GNU à l'année 84 parce que je voulais rendre possible l'utilisation d'un ordinateur en liberté. L'ordinateur ne fait rien sans système d'exploitation, mais tous les systèmes d'exploitation à l'époque étaient privateurs. Donc, pour créer la possibilité de l'utiliser en liberté, je devais créer un système d'exploitation libre. Et j'ai lancé ce projet, et le nom de ce système est GNU. Le mot GNU est un acronyme récursif qui signifie GNU's not Unix, ou en français GNU n'est pas Unix. C'était un système compatible avec Unix, mais la différence principale serait que GNU serait libre, tandis que Unix n'était pas libre. À l'année 92, la dernière vide dans GNU a été remplie par le noyau Linux, développé commençant en 91 par M. Torvalds. À 91, Linux était privateur, mais à 92, il a changé la licence. Il a appliqué une licence libre. Une fois Linux était libre, il était possible de faire la combinaison de GNU et Linux, un système d'exploitation basiquement libre. Mais chaque variante de GNU et Linux peut contenir des programmes privateurs. Les développeurs de chaque variante ajoutent ce qu'ils veulent ajouter. Et souvent, ils ajoutent des programmes privateurs produisant un système pas libre dans sa totalité. La grande majorité des versions, des distributions GNU et Linux sont privatrices. C'est dommage. Il y a quelques-uns qui sont libres. Regarde gnu.org/distros pour cette information. Il y a plusieurs manières de libérer un programme. Pour que le programme soit libre, il doit porter une licence libre. Selon la loi injuste actuelle du droit d'auteur, n'importe quelle œuvre au moment d'être écrite porte automatiquement un droit d'auteur. Donc n'importe quel programme porte un droit d'auteur. Et par défaut, la loi du droit d'auteur interdit les quatre libertés. Comment donc le rendre libre? Uniquement par une déclaration formelle par les détenteurs du droit d'auteur octroyant les quatre libertés essentielles à n'importe quel utilisateur. Et cette déclaration s'appelle une licence libre ou une licence de logiciel libre. Il y a plusieurs manières de les écrire. Parce que n'importe quelle licence qui octroie de manière adéquate les quatre libertés et une licence libre. Il y a une gamme de licences libres. Mais principalement, il y a deux classes. Il y a les licences faibles, c'est-à-dire les licences qui ne savent pas dire non. Les licences qui disent « fais comme tu veux avec mon code ». Et le problème de ça, c'est que une entreprise peut s'approprier de ce code et le convertir en programme privateur pour soumettre des utilisateurs avec. L'autre classe importante de licence est les licences de gauche d'auteur. En anglais, copyleft, en français, le gauche d'auteur. Ça signifie que la licence impose une condition à la redistribution de copies avec ou sans changement, et la condition est de respecter la liberté des utilisateurs suivants. La condition du gauche d'auteur dit « Oui, tu es libre de redistribuer cette version ou des versions avec tes modifications. Mais quand tu le fais, chaque copie doit porter les mêmes libertés et venir avec le code source correspondant. Comme ça, les utilisateurs qui reçoivent des copies de tes mains auront les mêmes libertés que je t'ai données. Et comme ça, les entreprises, quand elles veulent participer dans le développement, y contribuent. Parce que nier l'option de faire ça entre les options toujours autorisées, la meilleure est de collaborer avec les développeurs. Bien sûr, l'entreprise a le droit de faire une autre version avec uniquement les changements qu'elle préfère. Et parfois, elles le font. Mais normalement, il est plus efficace de collaborer avec les développeurs. Bon, maintenant, une fois ayant installé un système complètement de logiciels libres, il y a toujours le danger d'exécuter des programmes privateurs parce que beaucoup de pages web contiennent des programmes normalement écrits dans le langage JavaScript, mais c'est un petit détail qui ne change rien. Ce qui est important, c'est que ces programmes peuvent être libres ou privateurs comme tous les autres programmes. Et quelques-uns sont libres, mais beaucoup sont privateurs. Ces programmes entrent dans ta machine, dans les pages web, et le navigateur les installe et les exécute sans te le dire. Et ces programmes peuvent te fliquer aussi. Souvent, ils sont pour fliquer. Donc, pour maintenir ton contrôle de ton informatique, il faut bloquer les programmes de JavaScript pas libres. Nous avons implémenté une extension pour Firefox qui s'appelle LibreJS, qui analyse tous les programmes en JavaScript pour déterminer lesquels sont ou triviales ou libres. Et LibreJS permet l'exécution de ces programmes-là. Mais quand le programme n'est ni trivial ni libre, LibreJS le bloque et t'informe sur l'écran. Mais il y a une autre manière de perdre le contrôle de ton informatique, c'est-à-dire le service comme substitut à un logiciel. Ça veut dire qu'en lieu de faire une activité informatique dans ton ordinateur à toi, en exécutant un programme libre, un service t'invite de confier ton informatique au service. Et si tu le fais, tu dois envoyer toutes les données pertinentes au serveur. Puis, des programmes choisis par le propriétaire du service font ton informatique. Puis, le serveur t'envoie les résultats ou agit pour toi. Et comme ça, tu perds le contrôle de ton informatique. Juste comme si tu utilisais un programme privateur. Utiliser le service comme substitut d'un logiciel est l'équivalent d'utiliser un programme privateur avec les mêmes mauvais résultats. Mais c'est encore pire. J'ai expliqué que beaucoup de programmes privateurs fliquent l'utilisateur. Ils transmettent des données de la vie privée de l'utilisateur à quelques serveurs. Mais le service comme substitut à un logiciel fait la même chose, parce que l'utilisateur, pour l'utiliser, doit au commencement transmettre toutes les données pertinentes au serveur. Le même résultat. Mais c'est encore pire. J'ai expliqué que beaucoup de programmes, que plusieurs ou quelques programmes privateurs contiennent des portes dérobées universelles par lesquelles quelqu'un, le propriétaire je suppose, peut-être pas uniquement lui, a le pouvoir d'imposer des changements de logiciel sans demander l'autorisation de l'utilisateur. Et comme ça il change comment se fait l'informatique de l'utilisateur sans autorisation spécifique. Mais avec le service comme substitut de logiciel, le propriétaire du service, à n'importe quel moment, peut installer d'autres logiciels dans le serveur. Et ça, c'est juste, cet ordinateur est à lui. Il doit avoir le contrôle de quel programme tourne dans son ordinateur. Mais l'injustice vient du fait que cet ordinateur-là fait l'informatique aux autres. Et comme ça, le propriétaire du serveur a le pouvoir de changer comment se fait l'informatique aux autres sans leur demander l'autorisation de le changer. Et donc, pour avoir le contrôle de ton informatique et pour ta vie privée, il faut rejeter le logiciel comme le service comme substitut à un logiciel. Et on trouve souvent, par exemple, des services de traduction, des services de conversion de la voix en commande ou en texte. Il y a les services d'intelligence artificielle. Quand l'intelligence artificielle et offert à l'utilisation, ce n'est pas comme un programme que l'utilisateur peut installer et utiliser dans sa vie privée. C'est presque toujours un service comme substitut à un logiciel qui flique. L'utilisation, par exemple, de Siri implique le flicage. Il faut ne pas. Celui qui m'a présenté a dit que j'expliquerai la différence entre le logiciel libre et open source. C'est une différence de valeur. Open source, le non-mouvement open source, a été lancé en 1998 comme réaction de la droite contre le mouvement du logiciel libre, comme une initiative de séparer notre travail pratique, c'est-à-dire les programmes libres, de nos principes éthiques. En lieu de liberté, égalité, fraternité, l'open source dit rentabilité, efficacité, fiabilité. uniquement des valeurs pratiques. C'était le but, de remplacer nos valeurs éthiques par des valeurs superficielles, pratiques, pour faire oublier l'éthique, pour présenter le sujet comme uniquement pratique, sans question plus profonde dans l'enjeu. Ils ont eu beaucoup de succès parce que, même au commencement, ils étaient la majorité. Ils avaient l'appui de presque toutes les entreprises dans le domaine. Et les politiciens et les médias ont suivi les entreprises en disant presque toujours « open source », jamais plus « free software ». C'est un peu meilleur en France, mais il faut lutter. Il faut refuser de dire « open source ». Il faut dire « logiciel libre » toujours et uniquement pour que nos valeurs éthiques ne s'oublient pas. Le but d'open source est de nous faire oublier. Et beaucoup d'articles promeut l'information incorrecte, même sur moi. La majorité de ceux qui pensent connaître mon travail me prennent pour activiste d'open source. Ils m'envoient des messages remerciant mes contributions à l'open source et je dois dire, je n'ai rien fait pour l'open source. Je ne suis pas d'accord. Je lutte pour le logiciel libre, pour les droits de l'humain des utilisateurs du logiciel. Je ne dis pas droits de l'homme parce que les mêmes libertés s'appliquent à tous, quoi que soit le genre, donc je dis les droits de l'humain. J'ai même vu des articles qui m'appelaient le père de l'open source. Donc j'envoie une lettre à l'éditeur disant si je suis le père de l'open source, il a été conçu par l'insémination artificielle utilisant de la semence volée sans mon autorisation. Puis je présente les idées du logiciel libre et voici le but de la lettre, mais j'aime bien commencer par une blague. Enfin, les écoles doivent enseigner uniquement le logiciel libre. Regardez gnu.org/education pour les raisons. Enseigner aux jeunes à utiliser le logiciel privateur, c'est comme de les enseigner à fumer du tabac. C'est de semer la dépendance envers une entreprise. L'école ne doit jamais le faire. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a pas d'excuse acceptable pour le faire. Mais aussi, c'est pour l'éducation morale pour que les jeunes apprennent à s'entraider. À l'école, chaque classe doit avoir la règle suivante. Les élèves, si tu apportes un programme à la classe, tu ne peux pas le garder pour toi. Tu dois partager des copies avec le reste de la classe, y compris le code source, pour le cas où quelqu'un veut apprendre. Parce que cette classe est un lieu où nous partageons les connaissances. Donc, il n'est pas autorisé d'apporter un programme privateur à la classe, sauf pour faire de l'ingénierie inverse. Mais aussi, il y a l'éducation des programmeurs. N'importe quel programme incorpore des connaissances. Si les privateurs nient ces connaissances aux étudiants, voici l'ennemi de l'esprit de l'éducation. Donc, un programme privateur ne doit jamais être toléré dans une école. sauf pour l'ingénierie inverse. Et quand je dis école, ça comprend toute la gamme depuis le jardin des enfants à l'université, aussi l'éducation aux adultes. Mais quand le programme est libre, il offre, il présente ses connaissances aux étudiants, donc il appuie l'esprit de l'éducation. Et avec les programmes libres, on peut apprendre à écrire bien le code. Parce qu'il faut lire beaucoup de code et écrire beaucoup de code. Seulement le logiciel libre offre l'opportunité de lire beaucoup de code des grands programmes qui s'utilisent. Puis il faut écrire du code dans des grands programmes. Mais pour commencer, il faut écrire des petits changements dans des grands programmes. Puis on peut avancer à écrire des changements plus grands. Uniquement le logiciel libre offre cette opportunité. N'importe quel école peut offrir l'opportunité de maîtriser l'art de la programmation si elle est une école de logiciel libre. Les droits humains se dépendent les uns des autres. Si nous perdons un droit humain, il est plus difficile de protéger les autres, de défendre les autres. Aujourd'hui, étant vu que nous utilisons l'informatique pour faire beaucoup d'activités essentielles dans la vie, le logiciel libre, c'est-à-dire le contrôle de notre informatique, est devenu un des droits humains essentiels pour maintenir les autres droits humains. Et comment nous aider? Si tu es programmeur, tu peux contribuer au projet libre. D'abord, il faut contribuer au projet des autres. Puis, ayant contribué 20 fois, tu sauras gérer un projet. Mais si tu n'es pas programmé, tu peux faire d'autres choses, même plus importantes. Tu peux organiser le mouvement. C'est comme n'importe quel mouvement politique pour la liberté. Il faut d'organisation. Par exemple, tu peux apprendre à faire des conférences pour diffuser les idées philosophiques et pour appeler les gens à lutter. Tu peux aussi persuader des écoles et des États à migrer au logiciel libre. Si tu es expert dans l'utilisation du système GNU et Linux, tu peux aider les utilisateurs ou aider l'installation. Tu peux lancer ou gérer un groupe d'utilisateurs GNU et Linux, et tu peux dire logiciel libre et totalement insister et refuser de dire open source. Mais si tu es en faveur de l'open source, tu as le droit de le dire. Mais si tu es en faveur du logiciel libre, il faut ne pas cacher cet appui en disant open source. C'est horrible la quantité de gens qui sont d'accord avec le logiciel libre et ne le disent pas. Ils le cachent en disant open source, qui appuie une autre philosophie amorale, qui ne présente que des bienfaits pratiques. Donc, j'ai déjà expliqué comment le logiciel libre évite du flicage. Parce que souvent, les programmes privateurs fliquent leurs utilisateurs. C'est une des formes importantes des fonctionnalités malveillantes, souvent trouvées chez le logiciel privateur. Mais, et voici le cas où nous pouvons éviter par nos choix d'être fliqués. Mais il y a d'autres systèmes de flicage qui ne fonctionnent pas à travers nos produits informatiques. D'abord, et aussi il y a du flicage impossible à éviter en remplaçant le logiciel. Par exemple, chez le téléphone portable. Comment est-ce qu'il flique tous les mouvements du téléphone? Par la triangulation des signaux. Quand le téléphone émet un signal, plusieurs tours le reçoivent. Et en mesurant le temps d'arrivée, ils peuvent déterminer où se trouve le téléphone. Et chaque an, ils mettent plus de tours de réception et donc ils peuvent trianguler plus exactement. Mais aussi, la porte dérobée, et la porte dérobée est dans un programme privateur que nous ne pouvons pas remplacer par le libre. D'abord parce que le fonctionnement de ce processeur est secret. Un téléphone avancé, un smartphone, contient normalement deux processeurs. Un processeur pour communication par radio au réseau de téléphonie et autre processeur pour le système d'exploitation et les applications. Dans quelques modèles, il est possible d'installer un système d'exploitation libre dans le processeur d'application, mais l'autre processeur de communication est secret. Il est impossible d'installer du logiciel libre comme remplacement. Et voilà la porte dérobée universelle. Et dans presque tous les modèles, le processeur de communication a le pouvoir de remplacer le logiciel dans l'autre processeur. Et c'est comme ça qu'ils le convertissent en dispositif d'écoute. C'est complètement foutu, le téléphone portable. Nous cherchons la possibilité de fabriquer quelque chose à ajouter à quelques modèles de téléphone pour le rendre sauf. Il n'est pas encore clair s'il y a un modèle approprié pour le faire. Mais, en tout cas, quand le flicage se fait à travers nos produits informatiques, il y a au moins l'option de ne pas utiliser ce produit. Mais il y a aussi le flicage qui se fait par les systèmes que nous utilisons, mais ne nous appartiennent pas. Par exemple, les systèmes de téléphonie, les réseaux font du flicage, ils fliquent totalement. Ils notent tous les appels, tous les messages, et aussi les fournisseurs d'accès fliquent les contacts pour tous les utilisateurs. Et même si le logiciel dans ces systèmes est libre, les copies utilisées par le réseau ne nous appartiennent pas. C'est le réseau qui a le contrôle de cette copie-là. Pas toi, pas moi. Donc, la solution de changer le logiciel n'est pas disponible dans ce cas. Que faire donc? Uniquement l'action politique peut éliminer le maltraitement du public fait par ces réseaux. Donc, il faut communiquer la reconnaissance de ce que le terrorisme est un petit danger. Par exemple, en France, le terrorisme est un petit danger. Moi, j'étais à Paris en novembre et quand ils m'ont dit qu'il y avait un attentat, j'ai pensé, la prochaine victime sera les libertés des Français. Et j'étais très triste pour la France. Il y a deux hymnes nationaux qui me font pleurer, dont un est la Marseillaise. Pas pour l'esprit de lutte qu'elle présente. Et donc quand je vois que comment l'État français écrase les droits de l'humain, ça me rend triste. Je vois tant de censure que l'État français impose. Des gens qui portaient des badges « Je ne suis pas Charlie Hebdo » étaient interpellés pour ça. Mais ils ont le droit d'exprimer cette opinion. Ils ne faisaient pas de violence. Ils ne proposaient pas de violence. Ils ne faisaient qu'exprimer une opinion. Et évidemment, les droits de l'humain commencent par le droit d'exprimer n'importe quelle opinion. En France, il y a même des postures sur l'histoire qui sont interdites. Il y a beaucoup d'années, des historiens français ont lancé l'appel de Blois, une pétition pour ne pas adopter plus de lois interdisant des postures sur l'histoire. Mais non, il y a maintenant une loi qui interdit de dire en France la posture qu'il n'y avait pas de génocide aux Arméniens. Tandis qu'en Turquie, il y a une loi qui interdit de dire qu'il y avait eu un génocide des Arméniens. Et un héros des droits humains qui s'appelait Hrant Dink était éditeur en Turquie. Il voulait réconcilier les peuples turcs et arméniens. Et il a été poursuivi pour affirmer en Turquie qu'il y avait un génocide aux des Arméniens. Et quand il a su que la France pensait imposer la loi qu'elle a maintenant, il a dit qu'il irait en France à nier ce génocide pour défier l'injustice de la censure. Mais malheureusement, il a été assassiné avant l'adoption de cette loi. Il n'a jamais pu le faire. Donc, je crois que la France et la Turquie doivent signer un traité pour éliminer ces deux lois, pour rétablir le droit à l'expression dans les deux pays. Que faire? Mais aussi, l'État français écrase le droit à la vie privée. Quand j'ai vu à Paris les Vélib, quelle ironie dire libre pour ça. Non, ce n'est pas libre, ça ne respecte pas les droits de l'homme. Et évidemment, le système prend note de chacun qui prend un vélo et où, et quand il le dépose et où. Mais les gens, des Français qui étudiaient le sujet m'ont assuré que l'Agence de protection des données était très puissante et très soigneuse et qu'elle assurait que les données personnelles accumulées ne s'utilisaient pas pour fliquer les gens. Et maintenant, l'État a éliminé toute protection. Le Vélib est maintenant devenu un système de flicage qu'il faut rejeter. Quand je voyage par train, je refuse les billets par Internet parce que ce système exige de donner les noms. Je dis, achète les billets dans la gare avec du liquide sans donner aucun nom pour ne pas faire une délation. Il faut regarder, donner le nom de quelqu'un à n'importe quelle entreprise est une délation. Parce que les entreprises font le flicage pour soi-même, évidemment, mais aussi pour l'État. Toutes les données accumulées par les entreprises sont disponibles sans entrave à l'État, sans justifier. Les Français doivent se souvenir de l'idée des droits humains, doivent comparer le danger du terrorisme avec le danger du tabac ou des voitures, ou du sucre ou quoi que ce soit, et reconnaître que c'est sot d'abandonner les droits humains pour éviter un petit danger, que en vérité ne requiert pas ces mesures injustes pour être réduit. Mais même pire, c'est quand ils mettent des caméras dans les rues pour reconnaître les matriculés des voitures ou les visages des gens. Ce serait le flicage total. Quand la France a imposé une loi injuste interdisant de cacher le visage dans les rues, j'ai dit, non, ce n'est pas pour quelque peu de musulmans. Non, c'est pour tout le monde qui veut avoir la vie privée. Il faudra cacher les visages. Donc, il faut lutter pour ce droit, pour rétablir la vie privée sur les mouvements des gens. Et maintenant, il y a la proposition d'exiger le nom de chaque voyageur par train. C'est idiot. Mais en vérité, les coupables de l'attentat ont pu voyager partout avec leur passeport. C'est une mesure inutile pour son but prétendu, mais très utile pour effacer les droits de l'humain. Mais pourquoi? C'est quoi le flicage au niveau que nous devons souffrir maintenant et nocif à la démocratie? C'est quoi la démocratie? C'est que le peuple a le contrôle de l'État. Mais l'État a la tendance d'agir secrètement. Comment contrôler les actions de l'État si nous ne les voyons pas? Il faut les lanceurs d'alerte, les héros qui révèlent les choses que l'État fait secrètement. Mais l'État a la tendance de les appeler des traîtres ou des espions pour les mettre en prison pour presque toute leur vie. Et si l'État sait toujours qui va où et qui se communique avec qui, l'État peut toujours trouver les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire les sources des journalistes, pour les mettre en prison Et s'il est trop dangereux d'être source des journalistes, ils n'y en auront pas. Et donc, fin à la démocratie. Donc, j'ai démontré le niveau maximum de flicage possible dans une démocratie au long terme. Le flicage qui permet que l'État identifie les lanceurs d'alerte est trop. Mais le flicage actuel est beaucoup plus fort que ça. Il faut donc réduire le niveau de flicage jusqu'au point que la démocratie peut perdurer. Mais comment? Beaucoup proposent de mettre des règles sur l'utilisation des données accumulées. C'est nul. Parce que dans les règles, il y a toujours l'excuse que l'État peut regarder les données pour trouver le coupable de quoi que ce soit. Et étant vu que l'État appelle le lanceur d'alerte, le héros, comme espion, voici l'excuse pour regarder les données pour le trouver. Donc ça ne protège rien. Mais aussi, une fois accumulées, les données seront abusées. Parce que quand c'est une entreprise qui les accumule, l'entreprise peut les utiliser pour beaucoup de choses, et aussi des employés sans autorisation peuvent le faire aussi. Ceux qui volent les données de l'entreprise peuvent le faire. Donc, les données, une fois accumulées, seront abusées. Et donc, il faut éviter l'accumulation des données. Beaucoup proposent l'idée que l'entreprise doive demander l'autorisation de l'utilisateur pour accumuler des données. Mais c'est nul. Seulement les néolibéraux trouveraient cette idée appétissante. Parce que c'est évident, nous voyons que les utilisateurs autoriseront l'accumulation des données quand un service dit « Cliquez ici pour accepter nos conditions de service. » Et quelque part dans les conditions où l'utilisateur n'aura pas lu, il dira « Nous sommes autorisés d'accumuler n'importe quelle donnée envers vous et voici les conditions pour les distribuer aux autres entreprises. Il faudrait les anonymiser, mais nous savons que les données, les soi-disant données anonymisées sont très faciles à réidentifier. J'ai lu que Facebook vend toutes les données sur l'utilisateur, sauf quelque peu qui identifierait directement cet utilisé. Parce que Facebook n'a pas d'utilisateur, Facebook a des utilisés. Donc, et ce que j'ai lu, c'est que Facebook vend ses collections de données aux autres entreprises qui associe chaque comment dit-on record
enregistrement.
Quoi
enregistrement
non dans une base de données
un enregistrement
c'est un donc
fichier, les données,
quoi
les données.
No, pour chaque personne, pour chaque utilisé, il y a un record, donc
un fichier.
Donc le fichier de chacun, l'autre entreprise rassocie ce fichier avec la personne. Et n'a pas de contrat avec l'utilisateur, donc elle peut faire n'importe quoi avec ce fichier, pas anonyme. Donc, la politique d'exiger que l'entreprise demande l'autorisation de l'utilisateur ne change rien. Il faut simplement interdire l'accumulation de données, pas complètement nécessaire pour faire le travail. Il faut des systèmes de paiement, système numérique de paiement anonyme. Le système actuel identifie l'utilisateur au vendeur et peut identifier les produits achetés à la banque. Il faut l'interdire. Au moins, comme première étape, le vendeur ne doit pas avoir accès qu'au fait que la banque a autorisé le paiement, ni même le numéro de la carte. Seulement la banque doit avoir le numéro de la carte et doit autoriser le paiement, puis le vendeur saura, nous pouvons le vendre. Mais vraiment, il faut le remplacer par un système complètement anonyme. Nous avons développé un système qui s'appelle Thaler. GNU Thaler. Regarde thaler.net. C'est un projet qui se développe chez INRIA. Pas loin d'ici. Mais le point, c'est qu'il faut le mettre en effet. C'est un système, ce n'est pas une monnaie cryptographique. Ce n'est pas comme Bitcoin. C'est un système cryptographique de paiement anonyme, mais anonyme pour celui qui paie, pas pour celui qui reçoit l'argent. Donc, le vendeur enfin devra porter tous les paiements à l'agence de paiement pour avoir l'argent. Et comme ça, la quantité reçue sera connue. Un des buts de ce système est de ne pas se prêter à l'évasion des impôts. Mais et il sera aussi possible de savoir combien d'argent chaque utilisateur a déposé en total, parce qu'il devrait acquérir les jetons à payer. Mais personne ne pourra savoir qui a fait chaque paiement. C'est déguisé complètement par le système. Voici un système éthique de paiement numérique. Il faut remplacer toutes les cartes de paiement aussi pour le transport en commun par des systèmes anonymes. Ils n'ont pas le droit de savoir qui va où. C'est pour ça que je refuse de m'identifier pour les cartes, pour les métros de n'importe quelle ville. Je peux utiliser une carte de paiement, mais je donne de l'argent uniquement en liquide, je ne m'identifie jamais, et de temps en temps, je jette la carte et j'obtiens un remplacement. C'est ce qu'il faut faire. Où les gens peuvent échanger les cartes. Quand les cartes sont vides ou contiennent la même quantité, pourquoi pas, s'ils s'intéressent de ce que ni l'un ni l'autre perd, ils peuvent échanger les cartes. Mais il faut ne jamais s'identifier pour mettre de l'argent dedans. Moi, je n'utilise ma carte crédit que pour les vols. J'achète en liquide pour résister le flicage. Voici autre système. Les systèmes de paiement numériques sont des systèmes de flicage. Et vous voyez la propagande qui dirige l'attention des sots à la commodité de pouvoir payer vite. Mais c'est sot, comme ça on paie plus. C'est établi que celui qui paie vraiment en liquide reconnaît combien il paie et a plus de tendance de ne pas acheter pour ne pas gaspiller ton argent et pour résister le flicage, paie en liquide. Autre système de flicage fonctionne par les caméras. Et beaucoup mettent des caméras de sécurité. Les caméras de sécurité sont déjà vieux. Mais les vieux caméras de sécurité ne se communiquaient pas au réseau. Ils gardaient l'enregistrement localement. Et ça facilite la sécurité, mais pas le flicage. Pour regarder l'enregistrement, il faut aller sur place. Et c'est trop difficile à faire tous les jours. On le fait quand il y a un crime. Donc, ce caméra fonctionne pour décourager les crimes, mais pas pour fliquer tout le monde. Mais quand le caméra présente les images au réseau, un système centralisé peut copier tout et garder tout et reconnaître les visages de tout le monde, et voici flicage total. Donc il faut interdire les caméras connectées au réseau, visées sur des lieux où le public est admis. À l'intérieur de chez toi, si tu veux que tout le monde puisse regarder l'intérieur de chez toi, y compris les voleurs, bon, tu as le droit de mettre un tel caméra. Mais si ça vit sur la rue, non. Sur le centre commercial, non. Sur l'école, non. Donc, j'ai proposé des moyens techniques pour limiter le flicage. J'ai conçu un système pour les Vélib. Parce que le système n'a besoin de savoir qui a pris le vélo, sauf quand il ne rend pas, quand il ne rend pas le vélo dans le temps approprié, le temps limite. Donc, l'idée est que un centre peut annoncer le vélo avec ce numéro a été pris. Et quand il rend ce vélo dans un autre lieu, ce central dira ce vélo numéro ça a été rendu. Et ça sera transmis aux autres centres. Et le centre qui a livré le vélo saura, ah bon, ce vélo a été rendu. Je peux l'oublier. Mais si le temps limite passe et ce central ne reçoit pas le message de ce que ce vélo était rendu, il dira, Celui-là a pris un vélo et ne l'a pas rendu. Donc, il y a des manières de développer des systèmes à ne pas fliquer. Et ça résiste l'établissement d'un État fasciste qui veut fliquer tout le monde. Parce que, oui, un État fasciste injuste peut imposer partout le flicage, mais n'aura pas les données sur le passé. Mais si le passé commence sous un État pas encore fasciste et flique tout le monde, accumule toutes les données, les données seront disponibles à l'État fasciste sur le passé aussi. Surtout, il faut un mouvement très fort qui rejette l'idée de supprimer les droits de l'humain pour protéger les gens. Donc, je propose aux Français de lire le texte de la Marseillaise et considérer l'idée d'être prêt à sacrifier parfois la vie pour garder la liberté. Heureusement, il y a moins de dangers maintenant qu'au temps de la Révolution. Vraiment, les grands dangers, comme le tabac, les voitures, le sucre, personne ne propose de les interdire. Donc, maintenant, avant d'accepter les questions, j'ai un livre. Oh, c'est quelle bêtise, c'est vraiment dommage. Ils m'ont envoyé, comment dit-on, hardcover? Quoi?
Couverture rigide.
Couverture rigide, c'est très long. Donc, dont le prix de base est plus haut, et je devrais exiger au moins ce prix, mais bon. Voici un livre adorable que je vais vendre aux enchères au bénéfice de la Free Software Foundation. Et je peux le signer, si tu achètes le livre, je peux le signer. Pourquoi? Nous pouvons accepter le paiement en liquide avec une carte bancaire si elle peut faire des achats internationaux par téléphone. Ou par Bitcoin, si tu as avec quoi faire le paiement ici. Je répondrai pour longtemps aux questions, tu auras le temps d'aller chercher du liquide et revenir. Quand tu offres, près d'agiter la main et crier la quantité que tu enchéris parce que j'ai des problèmes auditifs. Si tu offres de l'argent, tu veux que j'entende la quantité. Et donc, je dois commencer par le prix normal. C'est 55 $. Donc, c'est combien d'euros? 40? Non, 45? Non, un peu plus. 50? C'est un peu moins, je suppose, mais... donc 50 €. Est-ce quoi? 45? Non, l'euro ne vaut pas tant. Combien de dollars vaut l'euro maintenant? Mais pas plus de 1,20 €. C'est Free Software, Free Society, mon livre d'essai, en anglais. C'est la troisième édition qui est est apparu en octobre. Donc,
48.
Ah, donc 50 plus ou moins. Est-ce que j'ai 50 euros? Est-ce que j'ai 50 euros pour ce livre adorable? Combien? J'ai 50. Est-ce que j'ai 55? Quoi?
55.
J'ai 55. Est-ce que j'ai 60? 60 euros pour ce livre adorable. Combien?
60.
J'ai 60. Est-ce que j'ai 65? Combien? Plus fort.
65.
J'ai 65. Est-ce que j'ai 70 ou plus? Est-ce que j'ai 70 ou plus pour ce livre adorable? 70 ou plus? Est-ce que j'ai 70 ou plus à la frise? Combien?
70.
J'ai 70. Est-ce que j'ai 75? 75 à la Free Software Foundation pour défendre la liberté. 70 à 75 à l'FSF. Qui part? 80, j'ai 80. Est-ce que j'ai 85? 85 pour ce... Combien?
85.
J'ai 85. Est-ce que j'ai 90? 90 pour ce livre adorable. Est-ce que j'ai 90? 90? Quelqu'un? 90 ou plus, dernière opportunité d'offrir 90 ou plus. Dernière opportunité, combien? Est-ce que j'ai 100? Combien? J'ai 100. Est-ce que j'ai 110? Est-ce que j'ai 110 pour ce livre adorable? 70 à la Free Software Foundation pour défendre la liberté. Et c'est 100. Combien est-ce que j'ai 100? Est-ce que j'ai 110? J'ai sommeil, c'est horrible. Est-ce que j'ai 110? Dernière opportunité pour offrir 110. Dernière opportunité. 1, 2, 3, vendu pour 100. Et maintenant, comment payer? Je n'entends pas. Maintenant, c'est le moment de l'acheter.
Comme vous allez faire une facture pour ajouter?
Ah, je n'entends pas bien. Je ne sais pas faire une facture, mais si vous faites une facture, je peux le signer.
Comme Jeanne fera une facture, elle...
Mais comment est-ce que vous payeront? Comment est-ce que vous payerez?
With the invoice, you're going to send us.
Non, non, non.
So ask Marie, she's going to...
C'est impossible. Je dois recevoir le prix maintenant. Donc en liquide.
Marie, t'assumes.
Venez donc. Venez acheter. C'est le moment d'acheter. Ou si vous avez besoin, vous pouvez aller au distributeur de billets. Donc, les questions. Et maintenant, il faut recommencer la vente des marchandises de l'FSF. À la sortie, vous pouvez... Ah oui. Je propose de ne pas transporter les microphones.
Non.
Non, il faut garder le microphone dans un lieu et
que les gens
fassent la queue pour poser des questions. C'est beaucoup plus efficace, vous verrez. Et est-ce que vous voudriez maintenant...
Oui, je vais aller là-bas. Je veux juste dire, on a une heure limite, il y a 22h, je suis juste à partager. Vous m'entendez ou pas? Ça marche pas.
Moi, j'ai tant de sommeil, je crois que je ne peux faire pas plus d'une demi-heure de questions.
Et là, ouais, je ne crois pas que ce soit terminé.
Mais il faut quelqu'un pour garder là.
Je vais m'en occuper, je passe le micro à Fanny.
Oui, oui.
Juste pour vous dire qu'on a en gros encore une demi-heure de questions, donc profitez-en et après on a une heure limite pour évacuer l'école d'architecture qui est 22h.
Tiny de, hein?
Après les questions. Donc, venez ici pour poser des questions. Par là, il y a les marchandises. C'est une manière d'appuyer l'FSF. Vous pouvez aussi vous adhérer à l'FSF par notre site fsf.org. Nous avons besoin de plus de membres. Les membres financent l'organisation. Moi, je suis volontaire de temps complet. Je ne reçois pas de paiement de l'FSF. L'FSF ne paye pas mes voyages, mais l'FSF a une équipe d'employés payés.
S'il vous plaît. Juste pour vous dire que c'est l'association Pink qui a acheté le livre et il sera librement consultable à l'association au centre de ressources.
Vous avez sûrement remarqué qu'un vent de révolte souffle actuellement parmi la jeunesse en France. Je ne sais pas si vous êtes passé à Paris.
Oui, j'ai un rendez-vous le dimanche à leur faire quelque intervention.
Merci beaucoup, sans doute à Nuit Debout, j'imagine.
Oui.
Oui. Alors, j'avais une question par rapport à ça, parce que vous savez sûrement que beaucoup communiquent par rapport à ces événements, beaucoup communiquent, y compris sur des groupes Facebook, et vous savez aussi sûrement, y compris les services de renseignement et la police, utilisent les photos que nous publions pour identifier et charger les manifestants de délits qu'ils imaginent.
Oui.
Qu'est-ce que vous conseillez aux manifestants pour se regrouper, pour communiquer entre eux, en n'utilisant pas les outils privateurs dont vous avez parlé?
Évidemment, il n'y a pas de manière de se communiquer avec le public que les flics ne puissent pas lire. Si tout le monde peut le lire, ça comprend aussi les flics. Donc il faut ne pas mettre des photos. Mais qui font les photos? Les banquiers. C'est pour ça qu'il faut toujours investiguer le vrai taux. Non, mais sérieusement, enfin, il faudra cacher les visages.
La question était aussi sur PGP, par exemple, Petit Goût de Privacy, ou les moyens...
Notre programme s'appelle GPG, GNU Privacy Guard. Et Snowden a dit que ça fonctionne, que ça réalise le but. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Avec l'enchiffrement, on peut cacher le contenu de message. Mais le fait que tu te communiques avec lui, non. Pas avec le email actuel. Mais il y en a qui développent des systèmes pour cacher aussi qui se communique avec qui. Il y a des systèmes de chat où il est impossible d'identifier qui se communique avec qui. Mais il y en a aussi qui développent un remplacement pour les courriers. Mais enfin, je trouve que les technologies de vie privée peuvent être très utiles dans des champs étroits. Mais pour vraiment réduire le flicage, il faut aller plus loin. Il faut interdire les systèmes qui accumulent les données.
Bonjour.
il faut prononcer plus clairement chaque consonne. J'ai des problèmes auditifs.
Bonjour, vous m'entendez là ou pas?
Non, vous ne prononcez pas assez clairement chaque consonne.
Bonjour, là, c'est bon?
Non, vous avalez les consonnes. Il faudra que quelqu'un d'autre répète vos paroles.
Vous êtes végétarien?
Non.
Vous avez fait partie d'associations qui défendaient la nature avant, ou j'ai cru voir ça dans un reportage?
Partie, non, mais j'appuie beaucoup de causes pour protéger la nature.
Vous avez eu un avis sur Notre-Dame-des-Landes?
Sur quoi?
Sur Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport à Nantes.
Je n'entends pas bien.
Il y a un aéroport, un deuxième aéroport qui va être monté à Nantes.
Je n'en sais rien.
Ah d'accord, je n'ai pas l'habitude. Sinon, juste pour tous les gens qui sont dans la salle. Juste pour les gens qui sont dans la salle, en fait, il y a des assos de Linuxiens dans Nantes.
C'est un mauvais mot. Non, il faut ne jamais appeler les utilisateurs du système GNU comme des Linuxiens. Ça nous insulte. C'est d'attribuer notre travail à quelqu'un d'autre. Donc, j'ai lancé le développement du système GNU à 84. Et c'est à 91. Que M. Torvalds a commencé le développement de Linux, qui n'est pas un système d'exploitation. Linux est un noyau, c'est un composant d'un système d'exploitation. Et quand les gens disent « j'utilise Linux », c'est faux, ils se trompent, ils utilisent GNU. Et ils croient que ce soit Linux. Et donc ils diffusent l'attribution incorrecte de notre travail. Que faire? La chose que je peux faire est de te prier d'arrêter de répéter cette erreur. Ils ne sont pas des Linuxiens, ils sont des gnuisances. Et moi, je suis le gnuisance en chef. En anglais, the chief gnuisance.
Il y a une association nantaise qui va devoir se renommer Linux Nantes.
Oui.
Faire un effort. Non, mais c'était juste pour vous dire que si, sur Nantes, il y a quand même une grosse communauté d'utilisateurs de logiciels libres. Et que si vous vous renseignez un peu, notamment, moi je fais partie de Faison, qui est un fournisseur d'accès Internet associatif. Qui évite d'être chez les quatre gros opérateurs internet. Mais il y a plein d'assos, si jamais vous voulez vous renseigner sur un FAI associatif, il y en a un à Nantes, et vous pouvez venir me voir.
Merci.
Bonjour. Vous m'entendez bien au niveau des consonnes ou,
Oui, mais...
Je demande juste...
Je n'entends pas maintenant.
D'accord.
Plus fort.
C'est parfait. Vous dites que utiliser des logiciels libres, ça préserve votre liberté. Mais moi, je pense personnellement que se priver de ne pas utiliser des logiciels privateurs, ça nous exclut aussi des possibilités qu'ils nous offrent. Et donc, pour moi, c'est aussi...
Oui, c'est vrai. Il faut des sacrifices. Si quelqu'un vous offre quelques commodités... quelques opportunités en échange à votre liberté, vous avez le choix, votre liberté ou votre bienfait. Et donc, celui qui valorise plutôt la liberté refuse cette opportunité.
Et vous pensez quand même avoir davantage de liberté?
Quoi?
Vous pensez avoir davantage de liberté en n'utilisant que du logiciel libre, quitte à vous priver de logiciels qui...
Oui, mais je ne sais pas, pour me priver de quelque chose qui me priverait de la liberté n'est pas une perte, c'est de protéger ma liberté. Non, il y a une confusion fondamentale que peut-être vous partagez, entre la liberté et des opportunités. Non, ce sont deux choses différentes. Par exemple, quelqu'un qui est un milliardaire a beaucoup plus d'opportunités que moi. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a plus de liberté que moi? Parce, si on confond les opportunités et les libertés, il paraît que oui. Mais en vérité, les deux sont différents. La liberté est d'avoir le contrôle de votre vie, tandis que les opportunités sont plus d'options. Il y a des choses que le milliardaire peut faire, mais moi non. Mais ça n'a rien à voir avec combien de liberté j'ai, ni combien de liberté il a. Aussi, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, que personne ne pouvait faire il y a 100 ans. Est-ce que ça implique que les gens d'il y a 100 ans avaient moins de liberté? Non, c'est absurde. Donc si je utilisais Facebook, je pourrais réaliser des bienfaits ou des résultats avec. Mais ce n'est pas plus de liberté. Si j'utilisais, par exemple, il y a beaucoup de choses qui seraient commodes. Qu'est-ce qui se passe? Ça se fait automatiquement. Ce n'est pas vous qui a le contrôle. Donc, non, utiliser quelque chose qui me prive de la liberté ne peut pas me donner plus de liberté.
Juste une dernière question, par curiosité. Je voulais savoir où est-ce que vous trouvez des portefeuilles assez grands vu la masse de liquide que vous devez utiliser tous les jours.
Portefeuille, quoi?
Je voulais savoir quelle était la taille de votre portefeuille que vous arriviez à trouver.
Pas très grand, je ne dépense pas tant d'argent.
Parce que comme vous utilisez quasiment que du liquide, j'imagine que vous pouvez avoir...
Je ne dépense pas tant d'argent.
Bonjour. Je repense à Nuit Debout et j'ai lu un article il y a de ça quelques jours sur un parallèle entre Nuit Debout et le logiciel libre sur leur mode de fonctionnement. Et j'aimerais savoir si ce mode de fonctionnement est une...
Non, ce n'est pas vrai.
Oui.
Un logiciel libre est sous le contrôle de chacun séparément. Tandis qu'une réunion comme Nuit Debout est une activité collective. Donc, je ne sais pas s'ils prennent des décisions. Mais s'ils prennent des décisions, ils doivent le faire collectivement ensemble. Mais avec un programme libre, vous pouvez le changer comme vous voudriez, seul.
En l'occurrence, ma question n'était pas tellement sur Nuit Debout, plus sur le logiciel libre. Puisque ce que j'ai lu, c'est un principe que je ne connaissais pas, à savoir, le jour 1, on invente, on essaye, et le jour 2, on fait machine arrière si ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est réellement quelque chose qui...
Je ne comprends pas. Le jour 1, le jour 2, je suis perdu.
La première journée, quand on a réfléchi à quelque chose,
oui.
On l'essaye, on le met en œuvre tout de suite. Et ensuite seulement, on voit si ça a marché. Et si ça n'a pas marché...
Est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret? C'est très abstrait et je ne vois pas la relation. Mais avec un exemple concret...
Justement, je me demandais si c'était quelque chose qui était commun dans le logiciel libre. J'ai déjà ma réponse. Visiblement, ce n'est pas le cas. C'était un raccourci de journaliste.
Parfois, il faut réécrire quelque chose. Le programmeur fait beaucoup d'erreurs. C'est normal.
D'accord, mais il y a quand même un test de robustesse avant. Non, j'imaginais, dans Nuit Debout, on va essayer de casser quelque chose, on va voir si ça a marché.
Je n'ai aucune idée.
Logiciel libre, c'est différent.
Je n'ai aucune idée, en vérité.
D'accord. Merci.
Mais ce que je dis, c'est que dans une activité de groupe, quand il faut prendre une décision, s'ils veulent ne pas être autoritaires, ils doivent décider collectivement. Mais chez le logiciel libre, il n'y a pas de collectivité spécifique. Quand il s'agit du contrôle collectif, n'importe quel groupe peut faire ce qu'il veut et chacun peut faire ce qu'il veut.
C'était peut-être cette façon de voir qu'avait le journaliste.
Je ne sais pas.
Moi non plus.
Bonjour, vous me comprenez?
Je comprends plus ou moins, je vous entends avec un peu de mal.
Les gens préfèrent le logiciel privateur parce que c'est plus facile, c'est plus commode, c'est plus répandu.
Ou c'est plus commun, oui, c'est plus commun.
C'est plus commun.
Parce que c'est enseigné à l'école.
Parce que c'est déjà installé.
Oui.
Dans les cas, la plupart des cas, c'est vrai. Mais dans certains cas auxquels je pense, je vais donner un exemple, c'est peut-être pas forcément le cas. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je fais de la recherche en maths appliquée.
Quel nom? Le nom du programme?
Cplex.
Cplex?
Oui.
Je ne reconnais pas ce nom.
C'est un solver mathématique pour la programmation linéaire.
Je ne le connais pas, mais nous avons un programme libre.
Qui s'appelle GNU Linear Programming Toolkit.
Oui.
C'est vrai, qui est bon, mais dans ce domaine-là, souvent, les logiciels privés sont beaucoup plus performants que les logiciels...
Pour la liberté, il faut le refuser.
Je veux bien refuser, mais refuser, ça veut dire qu'un problème que moi, sur lequel moi je travaille, que je peux résoudre en une heure avec un logiciel...
Choisissez autre problème.
Je vais te...
C'est toujours une question des valeurs et des priorités. Est-ce que la liberté prend la priorité ou résoudre ce problème académique prend la priorité? Lequel est le plus important?
Dans ce cas précis, c'est un problème qui peut améliorer la vie d'autres personnes. Donc je ne pense pas que ce soit négligeable. Je ne dis pas que
Comment? Améliorer comment?
En améliorant, par exemple, ces problèmes-là permettent d'améliorer la distribution énergétique, permettent d'améliorer la distribution d'eau.
Évidemment pas tant. Les systèmes robustes ne fonctionnent pas par une décision compliquée centralisée.
Pas par une seule, j'attends, mais ça participe.
Ce qu'il faut, c'est la politique de remplacer la génération par du combustible. Et aussi, il y a des énormes opportunités de réduire la consommation d'électricité.
Mais c'est pas spécifiquement ce problème qui m'intéresse, ce que je veux dire.
Et enfin, si c'est une question d'améliorer l'utilisation de l'électricité pour un pays, est-ce que l'État français a assez d'argent pour développer un remplacement libre pour ce système-là? Je suppose que oui. Il serait très peu à l'échelle de l'État français.
Après, ce n'est pas spécifiquement sur le plan d'effet, c'est plus, il y a certains, dans certains domaines...
Oui, c'est vrai, et il y a des solutions dans ces domaines, et je viens de vous donner, vous présenter d'autres manières d'aborder la question.
Mais la question que je me pose, c'est pas sûr, c'est juste.
Pour moi, je rejetterai le logiciel privé sans exception. Et l'État a surtout le devoir de rejeter le logiciel privateur. L'État fait son informatique pour le peuple. et a le devoir de maintenir son contrôle absolu sur l'informatique de l'État au nom du peuple.
Question suivante, s'il vous plaît.
Quoi ?
Question suivante. Bonjour. Je voulais savoir ce que vous pensiez du matériel libre ou du matériel open source.
Ah, je ne dis pas open source. Ouais. Je ne suis pas pour l'open source. C'est une distraction. Non. Un ordinateur, l'idée d'un ordinateur libre.
Pas seulement des ordinateurs, par exemple.
Non, mais ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'il n'y a pas de copieuse pour les ordinateurs. Mais pour la conception d'un ordinateur, ça peut être libre. La conception n'est pas un objet physique. La conception est une œuvre. Et les œuvres peuvent être libres. En principe, je crois que les conceptions de produits utiles doivent être libres. Et il devient toujours plus de plus en plus important d'avoir des conceptions d'ordinateurs libres et des conceptions de puces libres. Mais l'obstacle à leur utilisation est que nous n'avons pas la technologie pour fabriquer chacun soi-même ses puces. Donc, tant qu'il faut utiliser des puces fabriquées en production massive, centralisée, nous ne pouvons pas vraiment avoir le contrôle de nos puces. Mais un jour, il y aura la fabrication personnelle des puces, et à ce moment, il faudra exiger que les conceptions soient libres.
Mais je pense par exemple à quelqu'un qui fabrique des meubles et qui publie les recettes de fabrication de son meuble et qui du coup permet à plein de gens de justement d'avoir des degrés de liberté sur ce meuble, de le fabriquer de, à partir du plan de départ, de faire des variations, des adaptations.
Pour moi, le problème c'est que la fabrication de chaque copie selon cette conception est très difficile et beaucoup de travail. Ce n'est pas. Je peux copier un programme avec une commande que je tape dans 10 secondes. Mais je ne peux pas fabriquer un meuble dans 10 secondes. Personne ne peut le faire. Mais peut-être dans le futur, peut-être avec des avances dans la fabrication personnelle, un jour ce sera possible. Regardez gnu.org/philosophy/free-hardware-designs qui apparaît dans ce livre.
Bonsoir. Ma question portait également. Enfin, vous avez répondu en partie à travers ça. Je vais vous demander. Vous parliez notamment de téléphones portables sur lesquels vous travaillez pour corriger ce problème de la puce, du processeur.
C'est un essai d'ajouter des choses à un téléphone portable et c'est compliqué, je ne peux pas l'expliquer tout à fait. Si on fait ça, c'est possible, nous le publierons.
D'accord. Et je voulais vous demander du coup où on pouvait trouver des informations, si vous en avez, il y en a sur internet déjà, vous avez publié quelque chose. Où est-ce qu'on peut le trouver ?
Sur quoi ?
Oui, sur le téléphone, en l'occurrence. Ou sur
non,
d'autres de vos
non, je n'ai pas.
Sur d'autres de vos travaux aussi
Sur ça, non.
D'accord. Et sinon, sur d'autres projets sur lesquels vous travaillez actuellement ?
Ah, je n'ai pas énormément de projets.
D'accord.
Mon travail, je suis le chef de mouvement politique. Et mon travail n'a pas la forme de projet.
Oui, d'accord.
Mais quand je publie quelque chose relationné avec le logiciel libre, ça se trouve dans gnu.org.
D'accord.
Normalement dans gnu.org/philosophy. Mais s'il s'agit des licences, dans gnu.org/licenses.
D'accord. Merci. Bonsoir.
Bonsoir. Moi, j'ai une question. Donc, je suis développeur, comme j'imagine beaucoup de gens ici. Et j'ai une question par rapport à la métaphore tout à l'heure de la personne qui fait des meubles. Donc, vous avez dit que la différence, c'est que la personne qui fait des meubles fait un travail compliqué.
De beaucoup de travail.
Beaucoup de travail. Et moi, en tant que programmeur, je fais aussi beaucoup de travail. C'est aujourd'hui ce qui me fait vivre.
Non, c'est autre chose. Non. Faire une copie d'un programme est très vite et très peu de travail. Développer le programme, c'est autre chose. Ça serait comme développer les plans de meubles. Mais de fabriquer chaque meuble selon le plan est aussi un grand travail. Et ça, c'est analogique à copier le programme ou de le compiler.
Mais dans un modèle libre, on commence de petit et ensuite par petit.
Pas forcément. Non. Nous n'avons pas de règles sur ça. Non, nous n'intéressons pas des techniques de développement. Pour nous, c'est secondaire. Pour nous, il s'agit de la liberté. Et quant aux manières de développer du logiciel, pour nous, si ça fonctionne, c'est bien. C'est un détail secondaire.
Ma question sous-jacente, c'était comment vous voyez la rémunération des développeurs dans un monde libre?
Il y a beaucoup de manières de gagner de l'argent à travers le logiciel libre maintenant. En France, il y a des entreprises de logiciels libres. Je crois qu'il y a 8 ans, quelqu'un m'a dit que les entreprises françaises de logiciels libres employaient 10 000 personnes. Il y a aussi des grandes entreprises qui financent des programmes libres. Il y a les États qui financent beaucoup de développement de logiciels qui pourraient également être libres. Il n'y a pas d'excuse pour que les projets financés par l'État soient privateurs. En tout cas, si l'État établissait la politique de ne financer que des logiciels libres, il pourrait financer les mêmes projets. Aussi, il y a le crowdfunding, qui a déjà fonctionné.
Merci.
Je connais quelqu'un qui est le développeur, le mainteneur. Il n'était pas le développeur initial, mais il développe maintenant le programme GNU Lilypond. Un programme pour l'édition des partitions de musique. Il reçoit assez d'argent en forme de cadeaux des utilisateurs.
Moi, ce serait surtout pour réagir justement à la question que vient poser monsieur, parce que moi aussi je suis développeur, et alors moi je travaille pour une entreprise qui ne fournit pas ses sources, mais je sais que...
C'est vraiment injuste, vous ne devez pas le faire.
Certes, mais j'ai besoin d'un travail et je n'ai pas encore la possibilité.
Moi, je n'accepterai pas de travail injuste qui impose de l'injustice sur le monde. Pourquoi ne pas vous faire politicien corrompu ou voleur ou...
Oui, mais ça aussi, l'État français me l'interdit.
Quoi?
Ça aussi, l'État français me l'interdit. Pour en revenir à ce que je disais juste avant, c'est qu'il existe de nombreux moyens de se rémunérer par le libre. Certes, il y a le crowdfunding, mais il y a aussi certaines sociétés, notamment françaises, qui développent un logiciel qui s'appelle Adulact, qui permet de gérer dans les collectivités tout ce qui est délibération, gestion des actes, etc. C'est très très métier. Et qui se rémunèrent notamment grâce au support logiciel qu'ils fournissent. Donc, c'est-à-dire qu'ils fournissent les sources, ils fournissent entièrement le logiciel, je crois que c'est sous la licence Apache, je ne suis pas sûr.
J'espère que non, c'est une licence faible.
Et du coup, le modèle de rémunération qu'ils utilisent se base en fait sur le fait que l'utilisateur va venir de lui-même chercher de l'aide et va donner de l'argent pour avoir cette aide. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette solution?
C'est bon. C'est éthique.
C'est un peu limite quand même.
Non. D'abord, il faut le premier point, c'est que le logiciel privateur est injuste. Il faut ne pas développer du logiciel privateur. Ça ne peut pas être justifié. Mais donc, si vous avez besoin d'emploi et vous ne trouvez pas de l'emploi éthique dans l'informatique, vous devez chercher de l'emploi hors de l'informatique. Mais il faut noter qu'il y a beaucoup d'opportunités de l'emploi éthique dans l'informatique. La plupart du développement de logiciels développe des programmes pour l'utilisation privée d'un client. Et dans ce cas, le développeur peut livrer le résultat comme du logiciel libre, il sera payé également. Beaucoup de travail informatique est dans le développement du site web. Évidemment, le développeur doit livrer le résultat comme du logiciel libre, mais il sera payé quand même. Les clients savent que pour que quelqu'un fasse ce travail, il faut payer. Je n'entends pas.
Bonsoir.
Il faut parler plus fort.
Bonsoir.
Je n'entends pas les consonnes.
Je voulais savoir comment vaincre les réticences auprès de professeurs dans une école. Dans une école associative de surcroît, donc sur lequel on peut avoir un peu la main, pour les convaincre de passer au logiciel libre.
Je n'ai pas de recette pour convaincre les gens. Moi, je crois que l'État devrait l'imposer par loi, interdit d'enseigner du logiciel privateur.
Bah, le problème, c'est qu'en France, le lundi, ils font des circulaires pour favoriser le logiciel libre, et le mardi, ils passent un contrat avec mes consultants.
Ça, c'est autre chose. Je n'ai pas de recette pour convaincre les gens. Je sais proposer des politiques qui seraient efficaces. Je ne sais pas proposer des recettes pour convaincre. Je présente des arguments. Regardez glupa.org/education/eduschools.html. Voici des arguments. Si les gens se laissent convaincre, c'est autre chose. La dernière question, je n'ai plus de temps.
Bonsoir, vous m'entendez?
Oui.
Je me posais une question, tout à l'heure vous parliez de flicage et d'évasion fiscale.
Oui.
Alors, je me posais la question, est-ce que ça rentre dans le cadre de l'utilisation légitime d'un stockage de données, une certaine forme de flicage justement pour éviter l'évasion fiscale? Pour s'assurer que chacun participe...
Le flicage des entreprises... jusqu'à un certain point, oui. Parce qu'une entreprise n'est pas une personne et n'a pas les droits de l'humain.
Mais une personne peut également faire de l'évasion fiscale en son nom propre.
Oui, mais quand il s'agit... d'abord, cette question est trop compliquée. Parce qu'il faut considérer les cas. Donc, la question dans cette forme est trop grande. Mais c'est vrai que l'État, je ne pourrais considérer que des cas spécifiques pour pouvoir penser. Donc, l'État exige des informations chez des gens. Et l'évasion fiscale, normalement, dans la grande majorité, fonctionne parce que les lois l'autorisent. Et donc, un peu d'exigence d'information sera justifiée. Par exemple, maintenant, il y a la question de si les entreprises étrangères doivent publier à qui elles appartiennent. Et je crois que oui. Maintenant, ils cachent qui possède vraiment l'entreprise. Et c'est une manière d'envoyer l'argent à on ne sait pas qui. Mais c'est possible grâce aux lois dans chaque pays. La loi d'impôt pourrait exiger, pourrait dire, si vous payez votre entreprise et le patron de cette entreprise n'est pas connu, vous ne pouvez pas déduire comme dépense de fonctionnement, comme dépense commerciale, le paiement à cette entreprise-là. Sur le champ, ces entreprises seraient obligées de publier à qui elles appartiennent.
Donc la solution, c'est plus de transparence.
Je crois qu'on peut aller très loin comme ça. Mais aussi, j'ai proposé un nouveau système de calculer les impôts. J'ai proposé un impôt progressif sur le revenu total de chaque entreprise. Et ce veut dire, progressif veut dire plus grand l'entreprise, plus haut le taux d'impôt. Mais il faut calculer la taille de l'entreprise mondialement, mais appliquer l'impôt uniquement aux revenus dans le pays. Mais chaque pays le ferait. Donc, chaque fraction du revenu sera soumise à l'impôt de tel ou tel pays. Mais le taux d'impôt sera plus haut, plus grand soit l'entreprise.
D'accord, merci.
Maintenant, je peux signer le livre, ou plus tard. Oui. Maintenant, je veux aller dîner.
Merci à tout le monde d'être venu. Un petit peu de communication orale, plutôt que sur les réseaux. On organise aussi une conférence le 10 juin au Grand T, où on fait venir un grand anthropologue brésilien, Eduardo Viveiros de Castro, qui est une grande figure plutôt de l'Amérique du Sud et moins de l'Amérique du Nord, avec une autre vision forcément du monde occidental. Donc on vous invite au Grand T. Bonne soirée. Thank you.
Ok. Bah non, j'ai appelé 2h20. Ok, hey, donc c'est toi à faire le
montage.
Le transcrit. Je ne sais pas si je m'en...
Tu m'envoies le son d'abord?
Bien sûr, non, je partage juste le... On regarde le pile, le transcrit. Ok, je stoppe.
Comment ça marche?